Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Je disais la semaine dernière que la saison des festivals de l'automne touchait à sa fin, avec les derniers concerts de Toulouse les Orgues ces samedis et dimanches, mais que l'agenda des événements musicaux en tout genre restait très chargé en ce mois d'octobre. Il ne s'agit pas de publicité mensongère, l'émission que nous allons vous proposer aujourd'hui en est l'illustration parfaite. Elle va être un peu particulière parce que nous allons vous y présenter un spectacle longtemps attendu et dont la création va enfin avoir lieu au Théâtre du Capitole ce samedi 16 octobre, après bien des reports dus à la crise sanitaire. Ce spectacle, c'est le ballet Toulouse-Lautrec, imaginé, conçu et chorégraphié par Kader Bellarbi. 6 représentations vont être données jusqu'au 23 octobre et Kader Bellarbi, le directeur de la danse au Théâtre du Capitole, me fait l'honneur et l'amitié d'être présent dans cette émission pour évoquer son spectacle avec nous. Je dis avec nous parce que j'ai également le plaisir d'avoir à mes côtés l'ami Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Voilà donc encore un numéro qui s'annonce très dense, et très dense on peut l'orthographier de deux façons, et nous allons le commencer en faisant notre habituel petit retour sur l'actualité musicale classique récente. Retour arrière, c'est parti.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour Kader, bonjour Serge, bienvenue aussi à vous deux et merci d'être au rendez-vous de Mélomanie. Nous allons revenir d'abord sur le concert de l'Orchestre National du Capitole donné vendredi dernier à la Halle aux Grains. Il faut préciser que cette soirée s'inscrivait dans la programmation du festival Toulouse les Orgues, raison pour laquelle on a pu entendre l'organiste Henri-Franck Beauperrin, soliste invité à ce concert. La direction d'orchestre était assurée par Fabien Gabel et il y avait un programme très original, programme centré autour de la figure de Salomé, avec deux œuvres dédiées à ce sulfureux personnage biblique, Serge.
Oui, tout à fait. C'était en deuxième partie de concert. Donc, la Salomé de Richard Strauss, bon, bien connue. Et puis, une qui est malheureusement moins connue, celle de Florent Schmitt, pour son ballet à l'origine. Et il en a tiré une suite, et c'est la suite que nous avons entendue. La tragédie de Salomé, donc, ça, c'était en deuxième partie. Mais en première partie, il y avait tout de même une œuvre aussi rarissime, pour ma part c'est la première fois que je l'entendais, une œuvre pour orgue et orchestre, alors qui a pour origine une œuvre pour orgue seul de Franz Liszt, qui s'appelle Fantaisie et fugue sur, excusez mon latin, Ad nos ad salutarem undam.
C'est pas mal.
N'est-ce pas?
C'est bien, c'est bien.
Et donc c'est une œuvre qui est inspirée par un extrait de l'opéra de Meyerbeer, Le Prophète, et qui est baptisé d'ailleurs pour cela le choral du prophète, et qui est dédié à Meyerbeer. Et elle a été arrangée plus tard, cette œuvre pour orgue seul à l'origine, pour orgue et orchestre par un organiste qui était Marcel Dupré. Donc c'est cette version haute en couleur que nous avons entendue à la Halle aux Grains. La Halle aux Grains équipée d'un orgue tout à fait incroyable, très coloré, conçu d'ailleurs par l'interprète Henri-Franck Beauperrin, puisqu'il est intéressé par la facture d'orgue. Et il est le concepteur de cet orgue qui s'appelle Gulliver, un orgue modulaire qui est assisté par ordinateur. Et donc qui attire l'œil dès qu'on entre dans la Halle aux Grains, hein, ça occupait tout le fond de la halle, hein, du plateau. Donc c'est un authentique orgue à tuyaux. Pour une fois, ça n'est pas un orgue électronique, c'est un orgue véritable, hein, à tuyaux. Donc avec des sonorités tout à fait intéressantes et très nouvelles, hein, dans cette Halle aux Grains, avec une acoustique particulière, avec peu de réverbération. Et donc l'œuvre de Liszt, vraiment très colorée, très forte et très intense. Et puis alors, cette œuvre était quand même précédée par une ouverture. Alors une ouverture là aussi très rare, d'un compositeur que l'on connaît par ailleurs, c'est Engelbert Humperdinck, qui est célèbre pour son opéra Hänsel et Gretel. Mais là, il s'agissait de l'ouverture d'un autre opéra, que pour ma part, je n'ai jamais entendu, et qui s'appelle Königskinder, c'est-à-dire Les Enfants du Roi. Là aussi, une œuvre très brillante, très colorée. Donc ça, c'était la première partie. Et en deuxième partie, nous arrivons enfin à la perverse Salomé, tragique Salomé, avec deux œuvres. Tout d'abord, alors, quelque chose que l'on connaît bien à Toulouse, puisqu'on a eu pas mal de représentations de l'opéra de Richard Strauss. Donc là, c'était la danse des sept voiles, la fameuse danse de Salomé devant dans son beau-père, hein, Hérode. Et donc, là aussi, évidemment, la couleur avant tout, une espèce de frénésie. Et je dois dire, une fois de plus, avec une qualité des interventions solistes, parmi les bois en particulier, la flûte et le hautbois de toute beauté. Mais là, on le sait, l'orchestre est célèbre pour ça. Donc,
Les couleurs de l'Orchestre National du Capitole se prêtent très bien à ce genre de musique. Hein, clairement.
Tout à fait, et oui, exactement. Et encore plus, je dirais, avec l'œuvre de Florent Schmitt.
La musique française, encore plus. Oui.
Alors là, c'était tout à fait éblouissant. Alors cette œuvre, La Tragédie de Salomé, c'était au début une musique de scène pour un mimodrame d'un certain Robert Dumière, enchanté, que je ne connaissais pas, qui était directeur du Théâtre des Arts à l'époque, avec deux volets, et qui exploite vraiment toutes les ressources de l'orchestre, avec un sens admirable de l'atmosphère, jusqu'à ces danses frénétiques du final. Ça serait un ballet magnifique, n'est-ce pas, Kader?
Eh ben oui, alors allez-y.
Mais je disais justement que, vous savez, je suis toujours dans la recherche et parfois dans la reconstitution d'œuvres. J'avais déjà écouté les deux versions dont vous parlez, de Strauss et de Schmitt, et c'est vrai que ces couleurs et cette frénésie est tout à fait intéressante et passionnante, peut-être à venir.
Notez-le, hein.
On prend date.
Je ne sais pas si c'est un scoop, mais ça va peut-être le devenir.
Oui. Donc voilà, alors le chef, là, Fabien Gabel, qui est déjà venu plusieurs fois, hein, à la tête de l'orchestre, là, a déchaîné absolument toutes les forces d'un orchestre chauffé à blanc, vraiment.
Florent Schmitt, compositeur assez méconnu, ce qui est bien dommage, qui fut l'élève de Massenet et de Fauré. D'ailleurs, ça se sent dans sa musique, qu'il était l'élève de Fauré. Prix de Rome en 1900 devant un certain Maurice Ravel. Ravel qui a été deux fois candidat malheureux au prix de Rome. Une fois, c'est Schmitt qui l'a eu, l'autre fois, c'est André Caplet. Mais bon, c'est Ravel qui est vraiment resté dans l'histoire. Oui. Alors, je crois qu'on n'a jamais entendu jusqu'alors la musique de Florent Schmitt dans cette émission. Alors, pour réparer ce fâcheux oubli, je vais vous proposer d'écouter sa suite symphonique, La Tragédie de Salomé. Il s'agit d'un extrait du premier mouvement de la deuxième partie intitulée « Les enchantements sur la mer ». Un extrait du premier mouvement de la deuxième partie de la tragédie de Salomé de Florent Schmitt, ce tableau joliment intitulé « Les enchantements sur la mer » dans une version de l'orchestre du Met dirigé par Yannick Nézet-Seguin. Et nous allons rester à la Halle aux Grains où était donné samedi dernier le premier concert de la saison 21-22 des grands interprètes. C'est Christian Zimmermann, le grand pianiste polonais qui se produisait à cette occasion. C'était un petit événement parce que Zimmermann se fait rare en concert et parce qu'il n'était pas venu à Toulouse depuis 2013. Vous avez assisté à son récital, Serge, et je sais que vous l'avez beaucoup apprécié. Rappelez-nous le programme qu'a joué cet immense musicien, assurément un des plus grands pianistes de notre temps.
Oui, un des plus grands pianistes dont il faudrait préciser quand même que c'est quelqu'un qui se limite dans son exposition en quelque sorte, puisqu'il ne donne pas plus d'une cinquantaine de concerts par saison. Or, de très nombreux virtuoses dépassent largement ces 50 concerts.
Bon, il y en a même qui sont à 150 pour certains.
Oui, oui, oui. Et puis, il apporte un soin particulier à son instrument, qui est le piano avec lequel il voyage et qu'il remonte et démonte, vraiment qu'il adapte au répertoire qu'il doit jouer.
Il a son piano dans sa valise.
Ah oui, oui, complètement. Il arrive avec un piano, donc...
C'est même pire que ça, je crois qu'il a son accordeur qui le suit partout.
Exactement, il a un accordeur spécifique qui lui prépare son piano à son goût. Et donc, très intéressant, vraiment très intéressant. Alors, le concert, voilà, je dois dire, c'était magique, absolument magique. Puisqu'il y avait à la fois du Bach, du Brahms et évidemment du Chopin. Là, en général, il y a toujours du Chopin dans ses récitals.
Ah oui, il est polonais, Zimmermann. Hein.
Ah ben oui, puis il a eu, à 18 ans, il a eu le Grand Prix Chopin du concours de Varsovie. Donc, Chopin est une obligation, finalement.
Compositeur fétiche.
Fétiche, absolument. Autre chose, autre particularité, il joue avec la partition. Et ça me rappelle un autre très grand pianiste qui était Sviatoslav Richter, qui jouait avec la partition. Il disait qu'il voulait réserver sa mémoire à l'essentiel, c'est-à-dire à la musique. Et
un autre pianiste comme ça, bien vivant celui-ci, comme Zimmermann, c'est Alexandre Tarot, qui joue toujours aussi oui. Avec ses partitions. Il ne joue pas de mémoire.
C'est ça, c'est donc une particularité. Il y a certains qui mettent un point d'honneur à jouer par cœur. Eh bien pas,
donc Alexandre Tarot, par exemple, il lui faut quelqu'un pour tourner les pages.
Oui, voilà, exactement. Donc il a commencé par du Bach, c'était la partita en si bémol majeur, avec ce préludium, là aussi magique, initial, et là, immédiatement, on a pu admirer un toucher d'une clarté, d'une transparence, tout sonne vrai et naturel, évidemment pas de romantisme, mais une dentelle pianistique, de toute beauté, avec une grande réflexion dans la sarabande. En général, c'est le moment où on médite. Et puis, cette joie qui illumine les menuets et la gigue finale, vraiment, c'était de toute beauté et très sensible, sans être romantique. Voilà l'intérêt. Donc, l'émotion, en fait, avec lui, elle naît de la forme musicale. Et puis ensuite... dans une sorte de transition vers Chopin, c'était Brahms. Alors, le Brahms de la fin de sa vie, c'est-à-dire les trois intermezzo de l'opus 117, qui sont très différents, hein, sont des pièces tardives, des pièces crépusculaires avec une atmosphère un peu automnale et qui ont été composées d'ailleurs en 1892, donc il était déjà âgé. Alors, ce sont des pièces que certains considèrent comme des berceuses, mais Brahms a refusé le titre de berceuse. Il a écrit ceci. Il faudrait alors mettre berceuse d'une mère malheureuse ou d'un célibataire inconsolable. Voilà comment se considérait ce cher Brahms. Là aussi, avec donc Zimmermann a joué ça avec des phrasés d'un grand raffinement, un jeu. Alors, c'est ce qui a fait la particularité de son interprétation, un jeu sans pesanteur, un jeu transparent. Alors que très souvent, certaines approches appuient sur le côté opulent et un peu pesant de certaines écritures brahmsiennes. Donc là aussi, la musique parle d'elle-même, clarté des registres, un léger rubato, mais sans excès, de toute beauté. Et enfin, la sonate numéro 3, en si mineur de Chopin. Alors là, évidemment, il se retrouve encore plus dans son monde, puisque là, j'ai eu l'impression qu'il voulait illustrer ce qu'a écrit Marcel Proust à propos de Chopin. Il a écrit « Chopin, mère de soupirs, de larmes, de sanglots, qu'un vol de papillons sans se poser traverse, jouant sur la tristesse ou dansant sur les flots. » C'est bien dit, n'est-ce
oui,
pas ?
Oui.
Magnifique. Bon, ben, ça, c'est du Proust. Eh bien, il a fait du Proust au piano, en quelque sorte, puisque son interprétation comporte à la fois un mélange de rigueur et de liberté. Ben, ça, c'est le génie de l'interprète, de pouvoir faire passer ce genre de particularité avec un largo, en particulier, magnifique, qui s'écoute un peu comme un nocturne, hein, un des multiples nocturnes que Chopin a écrit. Et le final, qui est d'une virtuosité stupéfiante, d'une violence même, eh bien, sa virtuosité, qui est indéniable, hein, de ce grand pianiste, ben, il ne l'exhibe pas en quelque sorte. Hein, elle fait partie du pouvoir expressif. Et donc, c'était à la fin une véritable éruption volcanique, évidemment, qui a suscité une ovation.
Force applaudissement.
Ah oui, 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 là, ça a été colossal. Et donc, du coup, il est revenu, mais il avait probablement pas l'intention de jouer de bis. Et puis finalement, il en a joué deux bis, tous les deux extraits de la deuxième partita de Bach, partita en do mineur. Et pour lui, c'était un peu pour boucler la boucle, comme un retour aux sources de la musique.
Christian Zimmermann a donc donné en bis deux extraits de la partita pour clavier numéro 2 de Jean-Sébastien Bach. Je n'ai pas cette œuvre jouée par lui à vous proposer. En revanche, nous allons pouvoir écouter maintenant son interprétation de la chaconne d'une autre partita numéro 2 de Bach, mais celle pour violon, transcrite pour le piano par Johannes Brahms. La chaconne de la partita numéro 2 de Jean-Sébastien Bach dans la version transcrite par Johannes Brahms, interprétée par Christian Zimmermann. Notez que le prochain rendez-vous de la saison des grands interprètes est consacré au jazz, avec la venue du grand trompettiste Wynton Marsalis, accompagné par le Jazz at Lincoln Center Orchestra, jeudi 21 octobre à 20h. Le lendemain du concert de Christian Zimmermann, nous étions à la chapelle des Carmélites à 16h, et là c'était un changement de décor et d'instrument avec le premier concert de Toulouse Guitare, où Thibaut Garcia, le directeur artistique de cette saison épatante, avait programmé Roberto Ossel, le grand guitariste argentin qui se produisait pour la première fois à Toulouse à cette occasion. Il a donné un concert magnifique, mais avant d'en parler, il faut qu'on revienne sur le mini-concert qui a précédé le sien, puisque la tradition de Toulouse Guitare est de proposer à un ou une jeune guitariste encore en formation d'assurer la première partie de chaque rendez-vous de la saison. Dimanche, on a eu le plaisir de retrouver Virgil Barthes, déjà entendu il y a quelques mois en préambule du concert du Quatuor Eclis à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et vraiment, ce tout jeune guitariste toulousain a confirmé tout le bien qu'on pense de lui, n'est-ce pas Serge?
Ah oui, absolument. C'est vraiment plus qu'un instrumentiste, c'est vraiment un artiste. Hein. Il a un tempérament. Et puis, il est exigeant avec lui-même, hein, parce que les trois œuvres qu'il a jouées ne sont pas des œuvres faciles, en particulier la première, qui est une œuvre de son professeur toulousain, Benoît Albert, et qui s'appelle Incipit et Tarentelle, qui est écrite dans un langage extrêmement élaboré et très actuel. Hein. Et donc, c'est une espèce de récitatif avec une confidence, de très très belle œuvre, mais très actuelle, hein, avec un vocabulaire qui n'est pas très courant pour la guitare. Ensuite, il a joué une œuvre du brésilien Egbert Gismonti, qui s'appelle Água e Vinho, Eau et Vin, donc. Alors aussi, une œuvre extrêmement douce, très expressive.
Ça sonnait brésilien, ça sonnait bien brésilien.
Ah, tout à fait brésilien, oui. Ouais. Et puis il a terminé, alors, pas quelque chose d'incroyable. Une variation sur un thème de Sor, le compositeur espagnol, d'un Barcelonais, Miguel Llobet. Et là, alors il s'est passé une chose que je n'avais jamais vue avant, c'est que l'une des variations est jouée de la seule main gauche.
Sur le manche de la guitare.
Sur le manche. Donc, alors j'ai déjà vu ça pour un violon, mais pour une guitare, j'avoue que je n'avais jamais vu ça. Donc, on peut dire bravo l'artiste. Il est allé très fort. Là.
Qui vient de rentrer au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, quelques années après un certain Thibaut Garcia, qui a montré la voie. Je pense que la voie qu'il a ouverte va maintenant amener d'autres jeunes musiciens de Toulouse, de la région toulousaine, à creuser ce sillon. Alors, ce qui est amusant, c'est que Thibaut Garcia, qui a à peine 27 ans, il fait presque figure d'ancien aujourd'hui.
Oui, c'est incroyable. Mais ça attire énormément de gens. Il faut dire que la chapelle plein. Des Carmélites, je ne l'ai jamais vue aussi pleine.
Ça débordait presque. Je crois qu'ils ont même refusé personnes. Il y avait des gens sur les côtés, là, sur les bancs là, qui sont le long des murs. Ça arrive quasiment jamais.
Oui, exactement. Donc, un grand succès là aussi pour ce jeune et pour la vedette. Donc.
Voilà, parce qu'en seconde partie, nous avons eu droit aux places de résistance, si je puis dire, avec Roberto Ossel, donc dans cette chapelle pleine à craquer. Et lui aussi n'avait pas choisi la facilité, c'est le moins qu'on puisse dire.
Un
programme extrêmement varié et où il y avait pas mal de musique de compositeurs contemporains.
Absolument, mais c'est quelqu'un qui est concerné par la musique du XXe siècle, vraiment. Hein. Et il a lui-même collaboré avec plusieurs compositeurs, et nombreux sont ceux qui ont écrit pour lui, à son intention.
Donc, y compris un certain Astor Piazzolla.
Exactement. Alors, la première œuvre, c'était des... Alors, vous m'excusez pour l'espagnol. Variaciones sobre un tema infantil venezuelo. C'est un certain Antonio Lauro. Et donc, un jeu très polyphonique. Alors, vraiment impressionnant.
C'est un vrai virtuose de la guitare.
Exactement. Et le langage très actuel s'est prolongé avec les 5 impromptus d'un Britannique qui s'appelle Richard Bennett et que l'interprète a complètement intégré et coloré, d'ailleurs. Autre pièce exigeante... Et puis j'en viendrai après à Piazzolla. Autre pièce exigeante et à la fois lumineuse, Toru. Alors c'est de la jeune compositrice hispano-portugaise Inés Badalo. Et c'est un hommage, Toru, évidemment, au grand compositeur japonais Toru Takemitsu, qui a disparu il y a quelque temps. Donc il donne à l'interprète cette œuvre tous les outils d'un travail sur le son très élaboré. Il a magnifiquement joué ceci, donc, évidemment. Et puis tout le reste du programme c'était placé sous le signe d'Astor Piazzolla, qu'il a connu, évidemment, et un grand compositeur dont on célébrait en mars dernier le 100e anniversaire de la naissance, tout de même. Donc, il a joué d'abord 3 pièces, arrangé par Roberto Ossel lui-même, avec le nostalgique El Gordo Triste, donc le gros triste, et également 2 autres pièces du même cycle qui, là, ont été arrangées par Pablo Uccelli, avec un portrait d'Alfredo Gobbi et Giacinto Ciclana. Voilà les 3 pièces arrangées qu'il a jouées. Et puis, une autre pièce très nostalgique, à la mémoire di Astor, de son compatriote Saul Consentino, qui est également argentin, donc, et qui a, à la mort d'Astor Piazzolla, a voulu composer cet hommage. Et puis le programme s'est achevé sur 3 des 5 piezas para guitarra, donc, qui ont été composées par Piazzolla à l'intention de Roberto Ossel.
C'est le dédicataire de cette œuvre de Piazzolla.
Alors, l'œuvre comprend 5 pièces. Là, il en a joué 3, Compadre, Romantico et Accentuado. Alors, une pièce qui est agrémentée de bruitages percussif, on tape sur la caisse de la guitare, tout à fait intégré au discours musical. Donc, une grande ferveur des liens qui unissaient le compositeur à son interprète, qui transparaissait là de manière très claire. Et donc, tout au long de ce petit voyage, Roberto Ossel a démontré d'abord une technique complètement irréprochable, au point qu'elle se fait oublier au bénéfice de la musicalité et d'une séduction sonore. Il a une sonorité
Il a un son incroyable. Chaleureux.
Incroyable. Et donc, là aussi, l'accueil a été à la hauteur de la performance et il est revenu En se faisant prier, en quelque
Alors,
sorte.
Alors oui, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut souligner dans cette émission, c'est que cet homme, musicien chevronné, réputé, est d'une timidité.
Incroyable.
Et on voyait, il n'osait pas regarder le public en face, il regardait sur les côtés où il n'y avait personne.
Oui.
Très étrange, il a presque fallu que, c'est pas presque, il a fallu que Thibaut Garcia le pousse pour qu'il revienne sur scène.
Pour qu'il revienne et qu'il offre un bis sous la forme d'une danse du folklore argentin, donc qui lui est très proche. Donc ça a été un bon moment, un privilégié, hein, qui augure bien d'une belle suite.
Oui,
pour,
oui. Avec un public de plus en plus fidèle et nombreux, à tel point maintenant que les salles de 200 places, c'est un peu juste hein, pour recevoir le public
exactement,
de Toulouse Guitare. Roberto Ossel a joué plusieurs pièces de son compatriote Piazzolla, qui a composé pour lui, vous l'avez rappelé, Serge, des Cinco Piezas para Guitarra. On l'écoute interpréter ici El Gordo Triste, autre pièce d'Astor Piazzolla. La bien nommée El Gordo Triste, pièce d'Astor Piazzolla, interprétée par Roberto Ossel. Je signale que le prochain concert de la saison Toulouse Guitare est programmé le 3 décembre à 20h, salle du Sénéchal, et que l'on va y entendre le guitariste croate Zoran Dukic dans un programme où il va y avoir du Jean-Sébastien Bach et de nouveau du Piazzolla. Voilà donc pour ce retour sur l'actualité musicale récente, petite virgule musicale, et l'on se retrouve dans quelques secondes avec Serge Chosy et avec Kader Bellarbi pour l'agenda de Mélomanie, et surtout pour parler de Toulouse-Lautrec. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur, Kader Bellarbi, directeur de la danse au Théâtre du Capitole et concepteur, metteur en scène et chorégraphe de Toulouse-Lautrec, ballet qui va être créé au Capitole du 16 au 23 octobre. 6 représentations d'un spectacle dont nous attendons la création depuis 1 an et demi. plusieurs fois reportée en raison de la crise sanitaire. Nous allons en parler avec vous, Kader Belharbi, de votre ballet et de Toulouse-Lautrec. Mais auparavant, je voudrais qu'on parle de la relation que vous entretenez avec la peinture. On sait que la danse et l'art pictural ont toujours fait bon ménage, que beaucoup de peintres ont été inspirés par la danse. On pense notamment à Matisse et à Degas. Encore que lui, ce sont peut-être plus les danseuses que la danse elle-même qui l'intéressaient. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Ne seriez-vous pas un peu un peintre contrarié?
Contrarié, peut-être, mais disons que de toute façon, la peinture et la danse sont un même monde. Oui, j'ai découvert que sans doute j'aurais aimé être un peintre. Alors, il n'y a pas de frustration, je le pratique d'une manière tout à fait amatrice, je dirais, voilà. J'ai repeint depuis cet été seulement, ça faisait 20 ans que j'avais arrêté de peindre, mais la peinture finalement m'accompagne puisque un chorégraphe est présent et que souvent l'axe pictural intervient pratiquement dans toutes les chorégraphies que je conçois et que je mentalise au départ sur toute la grande gestation, sur les perspectives, les projections, etc. Donc la peinture, finalement, est très présente.
Le corps, les corps en mouvement, l'expressivité, les couleurs, effectivement, les perspectives, les lignes de fuite, voilà, peinture et danse, en commun, un travail sur les corps, clairement.
Voilà, donc c'est le corps, c'est le mouvement, corps et graphe. C'est bien le dessin et l'écriture d'un corps. Donc ça, nous sommes vraiment dans le mouvement et nous sommes donc dans la peinture aussi, parce qu'il suffit après peut-être de colorer un peu ce que l'on veut exprimer. Donc un danseur est aussi un coloriste, puisque vous avez l'émotion ou l'incarnation qui fait que vous avez des couleurs de sentiments qui peuvent vraiment apparaître. Donc finalement, un danseur est aussi un peintre.
Toulouse-Lautrec. Pourquoi Lautrec plus qu'un autre peintre? Certes, il a été inspiré par les danseuses de cabaret, mais moi j'ai l'impression que la personnalité de cet artiste, enfermée dans ce corps malade et difforme, a pu autant vous inspirer que sa peinture proprement dite. Est-ce que je me trompe?
C'est exactement cela. Bien sûr, tout le monde connaît Toulouse-Lautrec, célèbre peintre, avec sans doute les clichés qui sont toujours très tenaces, avec les clichés bien sûr de ses fêtes parisiennes, Montmartre, ses nuits trépidantes. Mais Toulouse-Lautrec, ce n'est pas que cela. Et en ayant beaucoup de discussions et d'échanges avec Danielle Devinck, l'ex-directrice du musée Toulouse-Lautrec à Albi, suite aussi à l'exposition qu'il y a eu au Grand Palais, où le titre d'ailleurs donnait un sens différent, Toulouse-Lautrec, résolument moderne. C'est ce qui m'a intéressé aussi d'aller chercher sans doute une autre histoire, un autre regard. Vous parlez de la première source qui a été la mienne, bien sûr, le corps. Ce corps qui a été empêché, qui a été arrêté dans sa jeunesse, voilà, à cause d'une maladie génétique qui était la dysplasie osseuse à 14 ans, deux fractures aux jambes. Il dit lui-même qu'il mesurait donc 1m52 au final et que s'il n'avait pas eu cette fracture, peut-être qu'il ne serait jamais devenu un peintre. Et je pense que ça a sans doute conditionné sa vie. Il a peut-être transcendé avec son esprit et sans doute avec, je dirais, ce geste de son pinceau, de sa main, transcendé ce qu'il nous a laissé comme témoignage. Le témoignage de ses peintures, de ses dessins, que sont les gens, que sont peut-être aussi la crudité de la condition humaine, voire de l'âme humaine. Et c'est tout cela, finalement, qui m'a intéressé chez Lautrec. Donc le corps de Lautrec, qui est sans doute un fil conducteur, quand je regarde sa vie, ce corps est sans doute empêché, arrêté, comme je l'ai dit, mais c'est un corps fou, c'est un corps gourmand, c'est un corps alcoolique. Et donc vous pouvez mettre beaucoup, finalement, d'adjectifs à ce corps que je vais essayer de suivre tout au long de cette pièce chorégraphique. C'est un ballet, mais c'est aussi une pièce chorégraphique. On en parlera peut-être tout à l'heure dans la manière dont je l'ai conçue. Il y a bien sûr aussi la correspondance qui a été celle avec sa mère, la comtesse Adèle, qui devient finalement le deuxième fil conducteur et qui me permet peut-être d'avoir un rail qui va être une locomotive du temps et de l'espace tout au long de cette création. Et puis les couleurs, on en parlait tout à l'heure avec la Cité des Femmes, qui est ce monde que Lautrec a créé. Peut-être, j'imagine, des amours inaccessibles pour lui. Et l'on pense évidemment à toutes ces figures légendaires que sont la Goulue, Jeanne Avril, mais il y en a eu bien d'autres qui étaient tout à fait inconnues. Donc ces couleurs sont cette cité des femmes, imaginaire et tout à fait réaliste. Mais en contrepoint, je me suis dit, tiens, comme un peintre aussi, je vais essayer de mettre ce noir et blanc. Et ce noir et blanc, c'est peut-être le cercle des hommes. Ces hommes qui sont ces messieurs, ces clients, ses abonnés, ses badauds. Donc là, on voit une structure se dessiner, hein, telle que j'essaye de vous la représenter à distance. Et ce train, qui est cette locomotive, du temps, de l'espace et de cette relation entre la mère et son fils, vous avez des tiroirs que l'on ouvre. Et c'est sans doute le bouillonnement de la vie de Lautrec, avec pourquoi pas un Franche-Cancan, une valse, une java, la maison close qui apparaît, les carnavals des travestis aussi, qui sont exactement ce qu'il y avait à cette époque, cette frénésie qui était parfois sans tabou. Et donc voilà tout ce qui a permis, en tout cas au niveau des ingrédients, me faire dire qu'il y avait quelque chose à faire avec ce fameux peintre.
Voilà, alors on va parler de la musique, bien sûr. Vous avez un petit peu esquissé le sujet, la musique composée par Bruno Coulet. Juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, pour préciser certaines choses, comment vous avez introduit donc, dans votre chorégraphie des éléments pour recréer l'univers d'Étoile de Lautrec? Alors vous avez parlé de la présence très forte des femmes, les femmes et la couleur, les hommes, la masse sombre, le noir et blanc. On retrouve tout ça dans votre chorégraphie et votre mise en scène?
Absolument. D'abord, il faut un support. Alors, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question, comment travailler la scène? J'ai décidé que ce ne serait pas une frontalité. C'est-à-dire qu'on pouvait imaginer le cabaret dans le cabaret, comme ça se passait d'ailleurs à l'époque. Donc, on a fait une avancée sur la scène en mettant un proscenium. Si j'avais pu, j'aurais bien aimé, mais les monuments historiques me l'ont empêché au théâtre du Capitole, c'est d'avancer encore plus, donc de retirer des sièges. Chose, bien sûr, impossible. Mais pour permettre qu'il y ait cette invasion, je dirais, cette intrusion, vraiment à l'intérieur d'un espace qui est peut-être considéré comme une sphère, comme c'était à l'époque où tout le monde était autour. Donc il va y avoir des interactions qui vont être dans la salle avec les danseurs, qui seront vraiment participants à cet univers où il y aura des endroits qui sont peut-être réalistes, d'autres qui seront peut-être oniriques. Et tout cela va participer à être sans doute le support du peintre dans lequel nous allons pouvoir maintenant faire des intrusions qui seront celles d'objets qui correspondront peut-être à l'encadrement ou le désencadrement de toutes les compositions de Toulouse-Lautrec et de rappeler aussi qu'à cette époque-là, nous étions dans le théâtre d'ombre. Et dans ce théâtre d'ombre, en faisant des projections de lumière sur des objets qui rentrent dans l'espace, vous pouvez immédiatement habiller l'espace et en jouer. Donc, cet univers-là, voilà, qui s'est mis en place, et je vais le raccorder immédiatement aussi à ce que vous disiez, Bruno Coulet. Comment construire une musique avec un tel personnage, un tel univers? Donc la question s'est posée, mais il y avait une source première aussi qui est tout de suite intervenue. Je ne sais pas si vous connaissez Entr'acte de René Clair.
Oui.
Voilà, avec Picabia et la musique de Eric Satie.
Et Satie qu'on voit sur les images.
Et donc, ce film plutôt dadaïste, ou avec un côté de non-sens et d'absurdité, m'a fait penser que la manière dont je pouvais peut-être mettre un postulat, c'est que ce serait sans doute pas un ballet narratif, et il y aurait sans doute une histoire de collage. Donc, je vais en revenir évidemment à la musique. J'ai demandé à Bruno Coulet s'il pouvait peut-être s'inspirer de cet esprit de musique française très iconoclaste qui est celle de Eric Satie.
Oui, parce que moi, j'ai toujours pensé que Satie était vraiment un cousin musical de Lautrec. Le
absolument.
Côté clonotaire, le côté décalé, et le personnage aussi,
absolument.
Bien sûr, le
d'humour,
rapport compliqué
d'humour.
Aux femmes aussi.
Voilà, la Valadon.
Voilà, ils ont en commun la Valadon.
Oui, voilà.
La relation entre Satie et Suzanne Valadon, ça a été très orageux, et ça s'est très mal terminé. Il a fallu que la police débarque quand même. Et puis il y avait l'alcool aussi,
voilà.
Qui était au milieu.
Et c'est vrai que j'ai exposé à Bruno Coulet cette inspiration, peut-être, et même aller jusqu'au groupe des Six. Voilà, quand on sait que Cocteau a fait ce manifeste avec ce groupe des Six, on dit qu'il y avait un monde qui a collé parfaitement à ce personnage de Lautrec. J'ai proposé aussi une autre chose qui était une vision, je dirais, sonore, qui était celle de l'accordéon. Comment traiter aussi l'accordéon dans ce monde-là? Et tout de suite, Bruno m'a dit, mais je n'ai jamais travaillé avec cet instrument. Donc pour moi, l'inconnu peut être passionnant, donc allons-y, fonçons. Et on est arrivé à se dire que peut-être le dialogue entre un piano et un accordéon serait tout à fait favorable à pouvoir rentrer encore dans cet univers de Lautrec, en se disant aussi qu'il fallait faire une attention particulière, qu'au bout d'un moment, il peut y avoir une usure aussi sur la durée de l'écoute de ce dialogue qu'il peut y avoir entre un accordéon et un piano. Et là, Bruno Coulet a eu l'intention de donner une sorte d'aération, je dirais, et de spatialisation à ce qu'on ait un piano qui soit midi et qui puisse permettre de donner aussi un petit peu d'air et d'alléger finalement, je dirais, cette direction qu'on peut avoir dans une continuité d'1h45, puisque j'ai aussi décidé qu'il n'y avait pas d'entracte. Nous étions dans une seule partie, dans un seul élan. Donc voilà, tout ça s'est mélangé et on a commencé donc, cette aventure avec tous ces ingrédients culinaires.
Alors, pour illustrer ce que vous venez de dire, on va quand même maintenant écouter de la musique. Justement, vous avez collaboré avec Bruno Coulet, qui est le compositeur, entre autres, hein, on va le rappeler, de musique de films tels que Microcosmos, Les Choristes ou Le Peuple Migrateur. Premier extrait dans cette émission, Le Grand Atelier. Voilà, extrait du Grand Atelier, musique composée par Bruno Coulet pour le Toulouse-Lautrec. Une réaction, un mot sur ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, tout à fait. Voilà, ça fait partie de ces aérations dont je parlais tout à l'heure. Là, nous étions dans le Grand Atelier et pour nos auditeurs, c'est sans doute une représentation mentale de Lautrec qui a été dans cet atelier Cormon, très connu à l'époque, pour avoir cette formation académique. Et je me suis dit que c'était peut-être intéressant de rentrer dans une projection de ce qu'il pouvait imaginer sur scène. Et on parlait de peinture, mais qu'il est difficile de faire de la peinture sur scène. Je suis plus dans une sculpture avec le corps en mouvement.
Les corps en mouvement.
Voilà. Ouais. Et l'habillage viendra sans doute par la couleur des costumes ou, comme je parlais tout à l'heure aussi, du théâtre d'ombre, des projections qui vont venir se poser, on va dire, sur ces corps dansants.
Alors sur scène, on va retrouver l'univers des toiles de Toulouse-Lautrec, le monde qu'il fréquentait, mais est-ce qu'on le retrouve lui-même ? Est-ce que le personnage apparaît et de quelle façon ?
Alors le personnage apparaît, ça a été aussi un gros travail de savoir de ne pas tomber dans les clichés, et je vais en mettre tout de suite deux, Charlie Chaplin ou Fred Astaire, parce que dès qu'on met une canne à quelqu'un, on peut très vite avoir ce défaut, donc c'est un gros challenge, c'est pratiquement le dernier personnage qui est arrivé pour comprendre comment dans sa marche, dans sa démarche, ses attitudes, ses relations à ses différentes femmes, parce qu'il va rencontrer évidemment la Goulue, Jeanne Avril, et il va être aussi dans la Maison Close, qui est un grand, grand passage, comment lui peut être porteur de ce corps, comme je disais, empêché. Donc je l'ai contraint parfois sur certaines difficultés physiques qui ne sont pas de lui paralyser les jambes, mais de savoir comment lui, il peut incarner quelqu'un qui peut avoir, pourquoi pas, une raideur dans les jambes qui transforme tout d'un coup entièrement la vision qu'on peut avoir sur ce personnage dansant. Il apparaît, je pense, dans différents états. C'est aussi la comtesse Adèle. Il a rendu des portraits de la comtesse Adèle en ne montrant jamais ses yeux. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir lui mettre un masque en dessinant sur ce masque des yeux et qu'elle ait les yeux fermés, qui sont exactement le même principe qu'il a utilisé dans tous les portraits qu'il a fait de sa mère. Et donc, elle devenait pour moi présente et absente, et on en revient à ces correspondances où tout d'un coup, elles risquent d'être, je pense, comme une sorte de climat et d'horloge sur le temps et l'espace de la vie de Monsieur Lautrec.
Présent visible, invisible.
Voilà, elle est dans ces états comme une sorte de paysage sur peut-être, je pense, les moments trépidants de la vie de Lautrec, qui parfois sont des moments, quand il se retrouve seul, d'une grande mélancolie ou pourquoi pas une forme de souffrance, justement à cause de cette maladie qu'il avait de croissance.
La mer, c'est le décor de fond, la toile de fond un peu de sa vie, un peu du spectacle par la présence diffuse que vous lui accordez.
Voilà, c'est une sorte d'horloge du temps et de l'espace et vient tout d'un coup, comme des tiroirs, le bouillonnement de la vie où on rencontre Toulouse-Lautrec dans ce qu'on peut imaginer de sa vie, mais dans des moments qui sont parfois très différents. Nous pouvons rentrer dans un enfermement, nous pouvons rentrer dans une mélancolie, nous pouvons rentrer dans un amour de quelqu'un, nous pouvons rentrer dans une fête. Évidemment, le Franche-Cancan sera là. Il a fallu que je mette un Franche-Cancan.
On va l'écouter.
Voilà.
Mais alors, je veux qu'on parle maintenant aussi des musiciens avec lesquels Bruno Goulet et vous-même avez travaillé. On a parlé du piano, Satie, c'est le piano, l'accordéon, l'instrument populaire de l'époque, les cabarets, on pense beaucoup à tout ça, on pense à Yvette Guibert qui est aussi un peu présente dans votre spectacle. Alors, qui sont les musiciens qu'on entend à l'accordéon et au piano?
Alors, c'est la première fois que nous aurons en scène Raoul Rodriguez Bey, qui est notre pianiste, vraiment de la compagnie, qui donne le matin les cours et qui ensuite enchaîne les répétitions, qui sont d'ailleurs deux univers totalement différents et qu'il fait extrêmement bien. Et bien sûr que c'est un concertiste aussi, et je me suis dit qu'un jour, ce serait bien qu'il puisse apparaître sur scène. Et là, c'était l'occasion véritable, puisqu'il a le sens musical, évidemment le sens de la danse, et qu'il comprend ce que veut dire la danse. Là, c'était vraiment pertinent de pouvoir lui dire « viens avec nous dans cette aventure ». Ensuite, Sergio Tomassi est quelqu'un que j'ai déjà connu il y a fort longtemps. Nous avions travaillé sur deux pièces précédentes, « Les épousés », qui était la relation d'ailleurs et la correspondance de Théo et Vincent Van Gogh, avec une comédienne Nora Krief, donc il en avait fait la création musicale. C'est quelqu'un qui a accompagné Greco, Barbara, actuellement Lama, Cora Vauquer, un très bel artiste qui a travaillé pour le cinéma, qui a travaillé pour le théâtre. Et je me suis dit que sa présence était inévitable dans ce dialogue entre ce piano et cet accordéon. Donc ils seront face à face au balcon court et au balcon jardin. Il y aura même du déplacement, c'est-à-dire que Sergio Tomassi, qui a un accordéon, le piano à bretelles, pourra se déplacer certaines fois. C'est plus difficile avec un piano, évidemment.
Oui.
Et je dirais que ce que Bruno Coulet aussi a composé est merveilleux. C'est un mélodiste véritable. Il y a beaucoup de choses que l'on peut retenir, que l'on peut même chanter, qui correspondent à cet univers. Il dit lui-même que nous serons sans doute dans des déclinaisons, des suggestions, des variations musicales. Sinon, nous aurions directement repris des musiques de Erik Satie, par exemple.
Mais oui.
Donc c'est un choix véritable avec lui.
Voici un deuxième extrait de la musique composée par Bruno Coulet pour votre Toulouse-Lautrec, Kader Bellarbi. On se retrouve pleinement dans l'ambiance cabaret de l'époque avec un French Cancan. Thank you. Le deuxième, French Cancan, un autre extrait de la musique composée par Bruno Coulet pour Toulouse-Lautrec, le ballet de Kader Bellarbi, que vous pouvez donc découvrir, qu'il faut absolument découvrir au Théâtre du Capitole du 16 au 23 octobre. Il y a 6 représentations durant les 8 jours en question. Les seuls où il y a relâche, c'est le 18 et le 21 octobre. Et Kader Bellarbi, je vous laisse le mot de la fin. Il y a d'autres petites choses qu'il faut ajouter tout de même sur ce spectacle.
Oui, je pense que ça risque d'être une fresque endiablée, puisque je pars d'un collage. Il y aura sans doute quelques surprises. Venez voir Yvette Guilbert qui va parler chanter, une petite transgression sans doute, et aussi un petit bonbon qui est celui de la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que la proposition de la réalité virtuelle soit un substitut au spectacle vivant, mais pour le public qui le souhaitera, il y aura possibilité d'acheter pour 15€ supplémentaires pour 50 personnes par soir, se munir d'un casque et être immergé directement durant une dizaine de séquences à l'intérieur finalement des danses et de l'espace scénique, 10 séquences identiques que ce que vous pouvez voir en live, mais vous verrez dans le casque, vous, à l'intérieur des danses,
immergé,
et 3 ou 4 séquences où il y aura une autre dramaturgie que celle qui est en scène. C'est-à-dire que vous entendrez la musique qui est celle du théâtre, et vous aurez muni du casque des situations identiques, mais vous serez à l'intérieur et proche des danseurs. Vous pourrez presque même les toucher si vous avez envie, et 3 ou 4 séquences qui seront totalement différentes. Là, je pense que nous sommes dans quelque chose qui sera une sensation inédite, c'est dans l'expérimental, et c'est une première mondiale, je dis bien, dans le spectacle de danse et de ballet, que dans le spectacle vivant, il puisse y avoir une proposition de séquence de réalité virtuelle.
Alors, moi qui ai toujours rêvé de rentrer dans les toiles de Lautrec, avant de terminer cette émission, un petit mot Serge Chosy sur un autre événement programmé la semaine prochaine au Théâtre du Capitole, jeudi 21 octobre justement, où le duo formé par la mezzo-soprano Sophie Koch et le pianiste Bertrand Chamaillou nous propose à 20h un récital de Lieder et de mélodies. Quels airs et quels compositeurs va-t-on y entendre ?
Ah ben c'est un programme extrêmement varié, deux personnages bien connus à Toulouse. Hein. Donc avec
oui, Sophie Koch qui vit dans l'Aude, hein, et bon, Bertrand Chamaillou, on sait tous qu'il est toulousain.
Évidemment. Et là, les deux complices aborderont le monde de Stravinsky avec 3 mélodies du Faune et la Bergère, puis du Debussy avec le Balcon et le Jet d'eau, donc extrait des 5 poèmes de Charles Baudelaire, puis du Ravel avec Scheherazade, la merveille de Maurice Ravel, dans sa version piano évidemment, avec 3 mélodies, Asie, la flûte enchantée, l'indifférent, et puis tout un cycle de mélodies, 7 Lieder de jeunesse, c'est les Siebenfrühe Lieder d'Alban Berg. Alors, ces Siebenfrühe Lieder, ils viennent en quelque sorte en avant-première du Wozzeck qui va être donné au Théâtre du Capitole, avec justement dans le rôle de Marie, Sophie Koch.
Ouais, donc ce sera la première dans ce rôle.
Très logique, voilà, exactement. Et ce concert s'achèvera sur 4 Lieder de Richard Strauss, alors Seelen befreit, Ruhe meine Seele, qui est une pure merveille, et Schlechtes Wetter, c'est-à-dire mauvais temps. Donc, 4 Lieder de Richard Strauss pour compléter cet itinéraire extrêmement varié.
Sophie Koch, comme son nom l'indique, a des racines alsaciennes et même allemandes. Elle parle et prononce très bien la langue de Goethe et elle est donc très à l'aise dans l'opéra germanique et dans le Lied. Nous allons l'écouter dans un des airs de Richard Strauss qu'elle va interpréter au Théâtre du Capitole jeudi 21 octobre à l'heure Zelen.
Die Duftende Lesie
Aller Seelen, air composé par Richard Strauss, chanté par Sophie Koch, accompagné ici par la pianiste Sophie Reynaud, mais c'est bien Bertrand Chamaillou qui va l'accompagner jeudi 21 octobre à 20h au Théâtre du Capitole. Nous lui donner un programme d'air et mélodie d'Igor Stravinsky, Claude Debussy, Maurice Ravel, Alban Berg et Richard Strauss. Vous pouvez acheter et réserver vos places en ligne sur le site www.theatredukapitole.fr. C'est la fin de cette émission. Merci à Serge Chosy de m'avoir encore brillamment assisté dans son animation et merci à Kader Bellarbi d'être venu nous rendre visite pour nous présenter Toulouse-Lautrec, le ballet qu'il a conçu, mis en scène et chorégraphié, dont la création a lieu également au Théâtre du Capitole du 16 au 23 octobre. Vous avez 6 représentations pour le découvrir et c'est à l'adresse www.theatredukapitole.fr qu'il faut aussi vous connecter afin de faire vos réservations et acheter vos billets en ligne. Pour les amateurs de jazz, je rappelle le concert du grand trompettiste Wynton Marsalis, accompagné par le Jazz at Lincoln Center Orchestra, jeudi 21 octobre également à 20h à l'Allograin, dans le cadre de la saison des grands interprètes. La billetterie et les réservations sont en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. Et je signale enfin que l'Orchestre de Chambre de Toulouse est encore en concert les mardis 19 et mercredi 20 octobre à 20h30 à l'Escale de Tournefeuille, cette fois-ci, avec un programme dédié à l'âme de la musique russe, en particulier à Tchaïkovski. Renseignements, réservations et achats des places en ligne sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de nous être toujours fidèles. Très bonne semaine musicale à tous.